Qui n'a jamais lu un livre et ne s'est jamais imaginé le déroulé de l'histoire dans sa tête, un peu à la manière d'un film, se créant les personnages et l'univers au fil des descriptions, s'inventant même parfois une petite musique accompagnant le récit. Personnellement, je l'ai fait, et je ne suis pas la seule personne. La preuve, dès 1899, on pouvait compter sur des écrits en film, comme le Cendrillon de Georges Méliès. Souvenez-vous, lors de ma chronique précédente, j'avais très rapidement évoqué le principe d'adaptation en parlant des jeux vidéo au cinéma. Et si ces films trouvent toujours leur public malgré un grand nombre de plantages, c'est pour une raison. On aime voir un univers transposé dans un autre média. C'est encore plus important en ce qui concerne les livres, puisque ces derniers n'ont pas d'image, et les voir s'animer sur la toile, c'est toujours une expérience intéressante. Après, intéressant ne veut pas forcément dire correct ou respectueuse. Mais qu'est-ce qui fait du coup une bonne adaptation? Et bien c'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui je vais vous parler d'adaptation de livres en film. Comme je l'ai dit, les adaptations ne sont pas une chose récente. Dès les prémices du cinéma, on essayait déjà de transposer un livre à l'écran. La toute première œuvre n'est sûrement pas connue étant donné la grande majorité de premiers films muets perdus. Néanmoins, on retrouve des traces d'un film expérimental de 45 secondes, en 1896, intitulé Trilby and Little Billy, basé sur le livre Trilby de Georges Dumouriez, ayant inspiré plus tard Gaston Leroux pour Le Fantôme de l'Opéra. Le très court-métrage dépeint une scène où Trilby est à table avec son ami Little Billy. D'autres adaptations se sont succédées ensuite, beaucoup reprenant la même histoire, mais de façon différente. Roméo et Juliette de Shakespeare, par exemple, a été adapté pas moins de 80 fois au cinéma dans des formats différents. Mais alors, pourquoi faire une adaptation? Eh bien, pour plusieurs raisons. Pour les producteurs et les studios, c'est un moyen de faire un film se basant sur une histoire déjà existante, donc demandant moins de boulot que pour un scénario original. De plus, ils peuvent fédérer une attente sur un titre déjà très connu par le public, et donc amener un certain nombre de personnes en salle. Pour les scénaristes, c'est parfois un moyen de s'investir dans un projet qui a pu bercer leur enfance et de transposer leur vision de l'histoire sur grand écran. Enfin, et surtout pour les spectateurs et spectatrices, ça permet d'ajouter une nouvelle dimension aux mots sur le papier, de voir l'histoire différemment de celle lue, et de pouvoir dire « Non mais le bouquin est mieux ». J'ai retenu pour vous trois adaptations intéressantes et plus ou moins récentes pour cette chronique. Tout d'abord, Le Seigneur des Anneaux. Vous connaissez sûrement la trilogie de Peter Jackson, celle qui était arrivée en même temps que la saga Harry Potter et qui ne compte pas moins de 17 Oscars à son actif. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'il existe une autre adaptation datant de 1978? En effet, un réalisateur du nom de Ralph Bakshi a eu pour projet un film d'animation basé sur le premier livre et une partie du deuxième. Dans les années 70, Bakshi hérite d'un projet de film pour Le Seigneur des Anneaux. Un certain John Boorman souhaitait adapter l'œuvre de Tolkien en un seul film avec un scénario de 700 pages. Lorsque Bakshi est arrivé, il a laissé tomber le script de Boorman et a préféré faire les trois livres en trois films d'animation, en se basant le plus possible sur les bouquins, là où Boorman voulait enlever certains passages et ajouter des personnages inexistants dans les romans. Bakshi voulait une animation qui fasse le plus vrai possible. Il a donc eu recours à la rotoscopie, une technique d'animation qui consiste à d'abord filmer les acteurs, puis les dessiner et les peindre sur une image. C'est ce qui était important avant tout pour le réalisateur, c'était que l'esprit de Tolkien transparaisse, même si la description ne correspondait pas au personnage. À sa sortie, le film a créé une confusion car il était nommé Le Seigneur des Anneaux, contrairement à la volonté du réalisateur qui voulait ajouter un partie 1. Les spectateurs ont donc pensé qu'il s'agissait de l'adaptation des trois livres et que le film n'était pas terminé. Mais malgré cela, le film a eu un certain succès financier, mais en demi-teinte pour la critique. Et les studios n'ont pas voulu reconduire une suite. Ici, on a donc un film qui a voulu être fidèle au livre, mais qui a dû couper des éléments pour pouvoir respecter la durée habituelle d'un long métrage, expliquant certaines différences avec l'œuvre adaptée, notamment l'absence du personnage de Tom Bombadil, qui est également effacé de la trilogie des années 2000. Mais alors qu'en est-il des adaptations qui ont été réalisées pendant que l'auteur ou l'autrice était en vie, comme par exemple Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, sorti en 1974. Sachez déjà que les écrits d'Agatha Christie n'étaient pas leur première transposition sur grand écran, même si l'autrice n'a jamais été satisfaite des précédentes adaptations cinématographiques de ses œuvres. Cependant, en 1974, Lord Mountbatten, ancien vice-roi des Indes, parvient à convaincre la romancière d'accepter que son beau-fils, John Brabourne, producteur, qui produisent une adaptation de son roman Le Crime de l'Orient Express. Sidney Lumet va se charger de la réalisation avec un casting prestigieux réuni autour d'Albert Finney qui est choisi pour interpréter le détective Hercule Poirot. On y retrouve également Sean Connery, qui est célèbre James Bond, Jean-Pierre Cassel, acteur français, Ingrid Bergman, qui est surtout connue pour Casablanca, et Anthony Perkins, qui s'était distingué pour son interprétation de Norman Bates dans Le Psychose d'Alfred Hitchcock. Agatha Christie a fini par adorer la représentation de son roman, même si la moustache d'Hercule Poirot ne rendait pas vraiment hommage à ses écrits, étant décrite dans les livres comme la meilleure moustache de l'Angleterre. Le film en lui-même a été l'un des plus gros succès mondiaux pour un film britannique et a été nommé pour 6 Oscars, dont un remporté par Ingrid Bergman. J'en profite rapidement pour vous conseiller Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh, seconde adaptation du roman, et qui est notable pour son casting 5 étoiles, sa direction artistique léchée, la très chouette musique de Patrick Doyle et la sublime moustache de Poirot.
Mais qu'en est-il des films faits vivant de l'auteur ou l'autrice, mais qui n'ont pas plu à l'écrivain original ?
Il est vrai que ces films existent. On pourrait penser qu'un film adapté d'un livre doit forcément se faire en accord avec l'auteur ou l'autrice. Cependant, parfois, les droits sont vendus avant la publication du livre. Il y a quand même des films réussis. Je pense notamment à Shining de Stanley Kubrick, considéré comme un chef-d'œuvre, mais qui m'indiffère assez. Shining a tellement déplu à Stephen King que ce dernier a dirigé une mini-série respectant un peu plus, peut-être trop, son roman, et beaucoup trop verbeuse, et beaucoup trop longue, car n'étant pas adaptée au format filmé. Cette mini-série n'a d'ailleurs pas remporté un très grand succès. Mais c'est un autre livre un peu plus contemporain qui m'intéresse, puisque je suis moi-même fan de la série de romans, et qui a eu le droit à une adaptation en 2010, Percy Jackson, le voleur de foudre. Racontant l'histoire d'un adolescent hyperactif, Percy Jackson donc, qui découvre être le fils du dieu grec Poséidon. Il va être embarqué malgré lui dans une quête pour retrouver l'éclair de Zeus qui a été volé. Les droits du livre ont été acquis par la 20th Century Fox en 2004, soit un an avant la sortie du livre. Rick Riordan, l'auteur, n'avait pas son avis à donner sur les adaptations éventuelles à cause de cet accord. Le projet du film a débuté en 2007, et pendant les 3 ans qui ont parcouru la production jusqu'à sa sortie en salle, l'auteur a tenté de s'impliquer dans le long métrage pour sauver le film du naufrage en écrivant plusieurs mails donnant des pistes pour changer des éléments incohérents, comme le fait que les personnages avaient 17 ans au lieu de 12 dans le livre, ou d'autres morceaux qui contredisaient clairement la mythologie grecque dans laquelle était censée se passer l'histoire. Malheureusement, il n'a pas été écouté et le film s'est fait allumer par la critique, pointant exactement les mêmes problèmes que l'auteur, mais a su ramener suffisamment d'argent pour prévoir une suite qui est tout aussi mauvaise. Cependant, il semble y avoir une justice car une nouvelle adaptation en série télévisée est en préparation, supervisée cette fois par l'auteur.
Mais alors, quelles sont les clés d'une bonne adaptation ?
Eh bien, il faut avant tout chercher à faire un film, au lieu de transposer un livre mot pour mot dans un film. Car les codes et les écritures sont radicalement différents. C'est pour ça que le script de John Boorman pour Le Seigneur des Anneaux a été rejeté par Bakshi. Il faut également, si possible, travailler main dans la main avec l'auteur ou l'autrice, pour être sûr de ne pas trahir l'œuvre originale et d'avoir un film cohérent. Il ne faut cependant pas faire écrire le scénario par l'auteur ou l'autrice, parce que celui-ci ou celle-ci n'est pas scénariste et ne va pas fournir un script qui est réalisable. Ça a pu se voir par exemple dans Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Car c'est là avant tout le travail de l'adaptation. Condenser un livre de 400, 600, 800 pages en un film de moins de 2h30 ou 3h30 si vous êtes Peter Jackson. Pour cela, les scénaristes doivent garder le plus de moments et de personnages importants pour garder une cohérence dans le film tout en respectant les livres. Dans le cas d'une saga, c'est un peu plus compliqué car un élément anodin dans le livre 1 peut devenir important dans le livre 4. Comme ça a pu arriver dans Harry Potter, par exemple. C'est pour ça que de plus en plus de livres se tournent vers la série, qui permet de dire plus de choses car le format possède un temps d'écran plus long et peut perdre plus de temps d'exposition de personnages, d'objets ou de lieux. Ainsi, il y a bien plus d'informations du bouquin qui sont gardées et les adaptations sont bien plus appréciées des lecteurs. Je peux vous conseiller Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, série Netflix absolument géniale tirée des livres du même nom, ou His Dark Materials, adaptation de la saga À la croisée des mondes. Deux adaptations qui ont chacun eu un film au succès un peu mitigé, mais une seconde jeunesse en a série acclamée. Et c'est sur ces recommandations que je vais vous laisser. Voyez des films, lisez des livres si vous voulez, portez-vous bien. Salut.
Merci Céleste.
De rien. Merci Céleste.
On retrouve le prochain guichet choral la semaine prochaine.
Oui, si tout va bien.
tout va bien, si le monde ne s'est pas effondré. Moi, quand je pense adaptation, je réagis. Mais est-ce qu'on est obligé de faire une adaptation qui plaise à la personne qui a écrit l'œuvre originale ?
Non, parce que Shining, en soi, c'est une adaptation qui a été considérée comme bonne, mais qui n'a pas forcément plu à Stephen King. Après, c'est aussi important de respecter surtout le matériau d'origine.
Eh ben, je n'ai pas la réponse à ce débat. Hein. Je pense que c'est vraiment... Enfin, là-dessus, on peut se dire, bah oui, moi, j'ai envie de l'adapter et d'en faire peut-être quelque chose d'autre, de partir de ce que j'ai mis dans cette histoire que j'ai vue. Quelque part, on recrée une nouvelle œuvre. Et je pense que c'est un gros, gros problème ou une grande problématique, en tout cas, de quelle fidélité ou non. C'est pas si simple.
Il y a un autre exemple d'œuvres qui ont plu à la personne originale, mais qui n'a pas forcément respecté le livre. Je pense à Jurassic Park, qui a été fait, le scénario a été fait en collaboration avec l'auteur du livre, et il y a des différences entre les deux, mais il y en a un qui reste un chef-d'œuvre. Enfin, le film reste un chef-d'œuvre.
J'ai pas lu le livre.
J'ai pas lu le livre non plus.
Toi, Mehdi, il y a des adaptations que t'aimes bien ou que vraiment t'as trouvé naze?
Bah, je lis pas beaucoup de livres, donc je peux pas savoir en fait.
C'est pas grave si t'as pas vu les deux, hein, ça compte pas. Ok, d'accord. Je passe mon tour.
J'aime bien Harry Potter. Voilà.
En film ?
Ouais.
Et t'as lu les livres ?
Non.
Ok. Mais ça peut être bien aussi. Enfin, le principe de l'adaptation, c'est aussi le plaisir de découvrir une œuvre, une histoire qu'on n'aurait peut-être pas été carrément parcourir ou explorer autrement.
Ouais.
Tu voulais réagir, Céleste ?
Oui, de livres aussi. Des fois, on peut regarder un film et se dire qu'on va lire les livres pour voir si c'est la même chose, s'il y a des différences, s'il y a des trucs en plus, si c'est moins bien. Par exemple, la trilogie du Labyrinthe, un film qui a de base tiré sur des livres. C'est une série pour ados. Personnellement, j'ai quand même préféré le film parce que le livre se perd dans beaucoup d'incohérences et de facilités, alors que le film permet de est plus posé.
Mais t'as vu le 3 ?
Oui.
Il est horrible.
Pas.
Non ?
Alors, c'est vrai qu'il est un peu bancal, mais le livre est pire. Le livre est pire.
Ah, ok, d'accord. Bon, bah.
Le livre est pire.
En tout cas, moi, quand je vois une adaptation, quelque chose qui a été tiré d'un livre, j'ai envie de me dire que c'est aussi une œuvre qui existe pour elle-même. Et je trouve ça aussi important de la juger, pas uniquement en regard de l'œuvre originale. De se dire, bon, bah oui, on a décidé de supprimer ce personnage-là, ou oui, il y a eu on a réinventé une chose. Enfin, après, bon, on peut se dire vraiment c'est raté, ou c'était pas pertinent. Mais on a le droit aussi de réimaginer des nouvelles histoires. Mmh. Voilà ma position. L'adaptation que je recommande, j'ai pris des notes, c'est Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, qui a été connu, qui est donc l'adaptation d'un roman épistolaire de Chauderlot de Laclos. Alors là, pour le coup, on ne connaît pas la vie de Chauderlot. C'est pas vraiment son prénom, je crois. Je sais plus c'est quoi. Pierre Chauderlot de Laclos. Parce qu'il était mort, bien sûr. Le cinéma n'existait pas à son époque. Mais c'est vraiment une belle adaptation avec John Malkovich. Et j'ai peur de me tromper sur le nom de l'actrice principale, donc je ne vous dirai pas son nom, mais tout le monde est super.
C'est pas Glenn Close, hein ?
Ouais, c'est ça, merci. J'avais les initiales, mais pas la suite. Et puis sinon, bon, plein d'autres choses, quoi.
Oui, plein d'autres choses.
D'autres choses à rajouter sur cette thématique adaptation ?
Bah, pour moi, c'est bon.
J'étais un peu brusque. Bon, merci beaucoup.
J'en prie.